vous allez entendre un reportage territoire sur Radio Eulenspiegel 91.8. Jean-Marc Courtecuisse, bonjour.
Bonjour, Jo Spingel.
Très bien. Jean-Marc, tu es l'auteur d'un livre qui s'intitule « Compostelle, lève-toi, marche et grandis ». Je sais que tu ne crois pas au hasard, et avoir écrit ce livre n'est pas un hasard. Ça commence en 2010, cette histoire.
C'est bien ça, ça commence en 2010, juste après avoir pris ma retraite. Ma femme et moi, on décide de partir sur le chemin de Compostelle, j'oserais dire un petit peu à l'aventure, sans but précis, mais avec l'intention quand même d'aller le plus loin possible. Et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, parce qu'on est sportifs, on est des bons marcheurs. Et il y avait quelque chose qui nous attirait vers Saint-Jacques-de-Compostelle, je ne peux pas le définir, mais ça venait de nos tripes, voilà.
Départ du Puy-en-Velay, et lorsque tu prends ce départ, aussi bien ton épouse que toi-même, tu ressens qu'il va arriver quelque chose. Il y a un truc qui se trame.
Mais alors, au début, tout se déroule superbement bien. On est en osmose, on profite de la marche, des rencontres, des hébergements et tout, c'est super chouette. Et donc on marche comme ça jusqu'à Conques, mais 2-3 jours avant d'arriver à Conques, il y a quelque chose. Chacun de notre côté, on ressentait comme un poids, quelque chose qui n'allait pas, on ne pouvait pas le définir, on ne sait pas ce que c'était. Et on a reçu un coup de fil, on a dû malheureusement abréger le chemin de Compostelle parce qu'on a eu un ennui familial dans la famille, il y a eu quelque chose, il fallait absolument qu'on rentre, mais on l'avait plus ou moins pressenti sans vraiment pouvoir le définir, mais il y avait quelque chose qui se tramait, voilà.
Je parlais de 2010 tout à l'heure, mais il y a une chose terrible qui arrive en 2016, malheureusement, ton épouse décède. Et elle te demande quelque chose.
Oui, c'est ça. Quelques semaines avant de décéder, elle me dit « Jean-Marc, tu dois finir Saint-Jacques-de-Compostelle ». Et là, quand elle me dit ça, forcément, ça me touche droit au cœur. Et je me suis dit « Oui, il faut absolument que j'accède à ses dernières volontés ».
Malheureusement, elle nous quitte en juin et en septembre. Là, tu décides de prendre la route.
Oui, c'est ça. En septembre, je décide de reprendre la route. Je pars donc de Conques, là où on était arrêté. Et je poursuis, donc je fais quand même plus de 500 km. J'arrête à Pamplune. Je crois qu'au fond de moi-même, j'étais encore pas tout à fait prêt. Je pense que j'étais encore dans le deuil. C'était pas encore vraiment... c'était pas apaisé pour moi. Et j'ai quitté Saint-Jacques-de-Compostelle pour à peu près les mêmes raisons aussi que la première fois, pour des raisons de famille. Et voilà, et donc, c'était inachevé, on va dire, voilà.
Lorsque tu pars, il y a quelque chose qui te porte, on va dire, et tu as la certitude d'y arriver. Tu te sens imbattable, invincible.
Tout à fait, c'est ça. J'aurais soulevé des montagnes pour arriver là-bas. Je sais pas comment je peux expliquer, c'est inexplicable, mais il y avait une force en moi qui me disait, j'étais plein de certitudes, c'était sûr et certain, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter, pas les montagnes, j'aurais renversé des montagnes, mais j'étais sûr d'arriver au bout, d'aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle pour justement satisfaire aux dernières volontés de Jacqueline.
Il y a une certaine spiritualité aussi qui te conduit, on va dire, tu n'es pas catholique pratiquant, mais tu crois pas forcément à Dieu, mais qu'il y a quelque chose.
Oui, c'est ça, je crois à une force de vie, quelque chose d'impalpable, d'invisible, mais d'incontournable. C'est vrai qu'habituellement, je ne vais dans les églises que pour les mariages ou les enterrements, mais là, comme la première fois d'ailleurs, comme les deux autres fois, il y a quelque chose qui me porte et qui m'incite, qui me porte à aller dans les églises tout le long du chemin. Et j'allais naturellement, toutes les églises que je rencontrais, il fallait absolument que j'y rentre. Et s'il y avait des offices, j'y assistais.
Et tu as participé d'ailleurs à une lecture après recul avec un grand étonnement.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, je suis arrivé dans l'église, et puis il y a le curé qui est venu me voir. On discutait entre nous, et puis donc on discutait de choses et d'autres, évidemment, de Saint-Jacques de Compostelle. Et puis il m'a demandé, pourquoi ne feriez-vous pas une lecture? Oh, ben, j'ai dit oui. C'est venu tout naturellement et ça m'a donné aucun souci, aucun problème. Et donc j'ai pendant l'office j'ai donc lu devant les fidèles, voilà, un extrait de la Bible.
Ah ouais, ça t'a renforcé dans ta spiritualité?
Mais je sais pas si ça m'a renforcé dans ma spiritualité, pas forcément, parce que je vais dire que c'était tout naturel pour moi, et en fait, ça fait partie d'un ensemble, et il n'y a pas que ça qui m'a renforcé dans ma spiritualité, c'est le fait de marcher, d'être en osmose avec la nature, de rencontrer plein de gens, enfin, de faire des rencontres d'une richesse incroyable et d'une variété extraordinaire.
Tu as rencontré d'ailleurs un Coréen avec qui tu as sympathisé, avec qui tu as fait un bout de chemin, et c'était une belle expérience aussi.
Voilà, c'est ça. Donc en réalité, bon, j'ai rencontré plein de personnes, mais ma plus belle expérience et la plus, on va dire, qui m'a touché, qui m'a tenu le plus au cœur, c'est ce fameux Coréen, Chung-Soo, que j'ai rencontré, je crois, c'est 4 ou 5 jours avant la fin. Et on était bon, on se parlait pas beaucoup parce que son anglais, il avait un accent très très fort, et puis moi mon anglais est quand même assez, on va dire, d'un niveau plutôt bas. Mais sans se parler beaucoup, on était toujours ensemble, et il me disait toujours I follow you, I follow you. Il fallait absolument que je sois en tête et lui toujours derrière moi. Et c'est curieux parce qu'il avait un grand respect pour moi et il était comme à mon service.
Ah oui, c'est une
Oui.
mentalité et une éducation totalement différente aussi.
Oui, c'est ça, parce que j'ai rencontré d'autres Asiatiques qui étaient un petit peu du même genre. J'ai rencontré une Japonaise, voilà, et ils sont très respectueux des autres, et voilà.
Lorsque tu réalises ce pèlerinage, c'est quoi, 20 à 30 km de marche par jour? Il faut quand même un entraînement.
Alors, donc moi je suis sportif, je marche régulièrement, donc ça ne m'a pas posé de problème. Mais c'est très variable selon les personnes. Pour mon compte personnel, j'ai fait une petite trentaine de kilomètres de moyenne, voilà, sur l'ensemble du périple.
Lors de ce pèlerinage, il faut bien dormir, manger, il y a des points de ralliement, il y a des choses qui sont mises en place.
Oui, voilà, donc vous avez le long de l'itinéraire, donc depuis le Puy-en-Velay jusque Santiago. En France, il y a donc des hébergements qui sont répertoriés, et vous avez plusieurs types d'hébergements. Il y a les donativos, où on donne ce qu'on veut. Vous avez les hébergements communaux, et qui sont les moins chers, mais là, il faut préparer votre repas vous-même. Et puis, il y a les autres, les hébergements, les gîtes classiques avec, comment dirais-je, ben, le repas du soir, le petit déjeuner et le couchage. Et il y a les accueils pèlerins aussi, comment dirais-je, les hébergeurs qui sont vraiment extraordinaires.
Ces pèlerins, ils ont tous à peu près la même motivation ou chacun a son domaine de motivation?
Alors, c'est riche, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il y a autant de motifs de pèlerinage qu'il y a de pèlerins. Voilà, il y a les sportifs, il y a comment dirais-je, les curieux, ceux qui font ça pour la foi, il y a ceux qui font ça pour réparer des souffrances. Voilà, et c'est extrêmement varié, et c'est d'une richesse incroyable. Vous avez toutes les couches sociales qui sont représentées, des personnes jeunes, très jeunes, âgés, enfin, c'est et puis alors, ce qu'il y a, c'est que entre les pèlerins, il n'y a aucune différence. On se parle, on se dit bonjour. Chaque pèlerin qu'on rencontre, on discute, on dit bonjour et on discute.
Chacun est prêt à venir en aide à un autre qui serait en difficulté.
Ah, tout à fait, tout à fait. Il y a une entraide, et d'ailleurs, pendant tout le chemin, moi, j'ai jamais vu un seul pèlerin faire une remarque désobligeante sur un autre pèlerin, ou une dispute, ou quoi que ce soit. En fait, ce chemin est plein d'amour.
Auparavant, lorsqu'on arrivait, pas précisément à Saint-Jacques-de-Compostelle, Mais à Conques, à quelques kilomètres, c'est...
Non, c'est pas, c'est au-delà, c'est, comment dirais-je, quand vous arrivez à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous êtes à environ 90 km de l'océan. Donc, et quand, pour aller jusqu'au bout, c'est Finistère, le Cap Finistère, et donc c'est Fisterra en Espagne, en espagnol, pardon. Et là, la tradition voulait que, comment dirais-je, symboliquement, le pèlerin, quand il arrivait là, il enlevait ses habits pour les brûler, et remettre une autre tenue. Et donc, c'était symbolique pour dire qu'il changeait de peau. En fait, il y a un avant et un après Compostelle.
Le départ d'une nouvelle vie.
C'est ça, tout à fait. Il y a plein d'exemples que je pourrais donner de personnes que j'ai rencontrées sur Saint-Jacques-de-Compostelle qui ont changé de vie après avoir fait Saint-Jacques-de-Compostelle.
Toi-même, tu l'as ressenti, ce changement de vie, tu as vécu autrement?
Oui, non, mais c'est sûr et certain. Il y a un avant et un après Compostelle. Je me suis tourné plus vers la spiritualité. J'ai fait des rencontres, plein de rencontres extraordinaires après Saint-Jacques-de-Compostelle, encore plus qu'avant. Voilà, j'ai travaillé. Oui, il y a aussi un truc qui est hyper important, c'est que je me suis libéré d'un poids qui me pesait depuis plus de 60 ans, quelque chose que j'avais fait quand j'étais tout jeune, que je n'osais dire à personne, que j'ai un secret que j'enfouissais au plus profond de moi-même. Même à moi-même, je n'osais pas, dès que ça venait à mes pensées, il fallait absolument que je l'écarte, que je chasse ça de mes pensées. Je pouvais pas. Voilà. Et là, après Compostelle, j'ai réussi à m'en libérer en l'expliquant à quelqu'un. Voilà. J'ai dit ce qui s'était passé et c'est fait. Et puis voilà. Et depuis ce temps-là, je peux le dire à d'autres personnes.
Tu t'es senti purifié.
D'une certaine façon, libéré. Moi, je dirais libéré. Oui.
Il y a un système, je vais pas dire de pointage, mais crédentiel, où lors d'une étape, on reçoit un tampon qui authentifie ce parcours.
Voilà, c'est ça. Alors donc, en fait, chaque pèlerin, bon, ce n'est pas une obligation, mais l'écrasante majorité achète une crédentiale et avec des cases. Donc, c'est un peu le passeport du pèlerin. Et vous présentez ça à l'hébergement ou en cours de route, soit dans une église, un restaurant, peu importe. Sur le parcours, ils ont tous un cachet. Et donc, à chaque fois que, par tradition, c'est au moins une fois par jour, vous avez ce tampon. Et à la fin, quand vous arrivez à Saint-Jacques-de-Compostelle, au bureau des pèlerins, on vous délivre la Compostella, qui est le certificat qui atteste que vous avez bien fait le pèlerinage. Et qui servait à l'époque, c'était une marque de respect vis-à-vis du pèlerin. Et maintenant, on m'a expliqué que les jeunes, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais les jeunes de Corée avaient, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes étudiants de Coréens qui font le pèlerinage, et ils ont une espèce de bourse, où ils sont aidés pour le faire, et ils ont cette fameuse Compostella pour attester.
À ce jour, tu serais prêt à repartir sur ce chemin de Compostelle pour une nouvelle étape de vie?
Oui et non, voilà, j'ai d'autres projets, mais oui, il n'est pas interdit que je refasse qu'un Jacques de Compostelle. Alors, il y a deux types de pèlerins pour l'après-Compostelle, enfin, pour mon compte personnel, que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certains pèlerins qui ont tellement aimé ce pèlerinage qu'ils le refont. J'ai d'ailleurs rencontré un dénommé Jacques, le bien nommé, comme Saint-Jacques de Compostelle, qui l'a fait 16 fois. Tous les ans, il repiquait. Il adorait ça. Et après, j'en ai rencontré, par exemple, un autre qui travaillait dans la grande distribution. Il était cadre. Il n'en pouvait plus de cette vie. C'était trop dur pour lui. Et il est parti sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Et quand il est arrivé au bout, il a dit « J'ai réalisé mon rêve. J'ai changé de vie. » Et lui, il a abandonné la grande distribution. Et il a, acheter une maison sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il en a fait une auberge de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a dit « Ce que le chemin m'a donné, je le rends pèlerin, je le rends au chemin. »
Formidable. Voilà. Tu nous rappelles le titre de ton livre ?
Alors, Compostelle, lève-toi, marche et grandis.
Et tu as grandi.
Ah, j'ai grandi, tout à fait.
Formidable, un très beau récit, très, très captivant. Merci à toi, Jean-Marc.
Mais je remercie aussi la radio Jungspringel et toi, Bruno. Merci beaucoup.
Un grand plaisir, comme j'aime à dire.